Séquence émotion.
Eh oui, séquence émotion. Bonjour à tous et à toutes pour ce numéro 2 de Génération Vintage, toujours avec Jérôme Gorgeau, bien évidemment.
Bonjour les amis.
Oui, donc séquence émotion, puisque vous avez bien sûr reconnu le générique de Alf, car l'actrice Anne Sheddon, qui nous a quittés, elle a quand même participé à 101 épisodes de Alf.
Sacrée carrière.
Oui, oui. Oui, elle avait participé à beaucoup, beaucoup d'autres séries. Elle est apparue, entre autres, dans Super Jamie, dans Barretta.
Alors ça, ah, Barretta. Peu qui se rappellent, oh là là, de Barretta, oula, oula,
mais Barretta avec le générique chanté par Sammy Davis Jr. lui-même.
Ouais.
Elle est apparue dans Hulk, L'Homme de Fer, avec Raymond Burr, entre autres. Voilà, il y a encore plein de films et de séries dans lesquels elle a fait une petite apparition. Donc voilà, on voulait lui rendre hommage dans Génération Vintage.
En plus, celui qui joue le père, lui, par contre, il a une bio qui est aussi disparue, je crois. Oui. Mais il a une bio assez glauque. Il faut aller chercher sa bio, elle est corsée.
Oui, tout à fait. Et bon, nous allons quand même repartir un peu dans le sourire et les souvenirs. Si je vous dis « ça vous plaît », c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que ça te cause déjà?
Ah oui, je vois une publicité là, tout de suite.
Et bien sûr.
Et alors, c'était un flan pâtissier, non? C'est pas ça?
C'était Deli France, oui. Vieille marque. Et c'était Valérie Le Mercier, voilà, qui disait cette phrase lors d'un repas. Nous allons la réécouter avec plaisir.
Ah, mais si, il va le voir, c'est nul, mais ça va te plaire. Moi, je vais pas dire 10 minutes.
C'est délicieux.
Remarquable.
Ça vous plaît?
Oh.
C'est moi qui l'ai fait.
Non.
Si, j'appelle ça le paradis noir.
Oh. Mais comment tu fais ça?
Bah tu sais, c'est tout bête, hein.
Je fais des petites génoises.
Cette femme, non. Ce n'est pas elle qui a fait le paradis noir, c'est Deli France. Ce qu'elle a fait, c'est de le sortir du congélateur, c'est tout.
De toute façon, si je leur avais dit la vérité, ils ne m'auraient pas cru, alors...
Les gâteaux Deli France, vous n'allez pas le croire.
Alors, hein, que de souvenirs avec ça.
Oui, alors ce qui est marrant, Valérie Le Mercier, c'est quelqu'un qui était plus moche jeune qu'en vieillissant. Plus elle a vieilli, plus elle était belle, cette femme. Ou alors elle a peut-être fait exprès de se donner un genre, mais je trouve qu'elle a été de plus en plus... Comme souvent on dit, les hommes, en vieillissant, ils sont mieux, mais plus elle a pris de l'âge, plus elle a été belle, Valérie Mercier. Mais jeune, elle avait une tête que je pense elle faisait un peu exprès, elle avait une tête pas terrible, terrible.
Bah, ça devait être une époque où elle se cherchait, sûrement.
Ah oui, comme beaucoup. Elle ne s'était pas trouvée, ça c'est sûr. Mais...
On va rester dans la nourriture.
Ah.
Puisqu'on était dans les gâteaux, on reste dans les gâteaux.
Tu sais que je fais un régime en ce moment, hein.
Oui, non, mais c'est juste verbal, donc ça va, tu ne prendras pas un gramme.
J'espère.
Tu prendras juste du plaisir à écouter.
Bon,
si
d'accord.
Je te dis Richard Gottener pour un goûter, ça te rappelle quelque chose?
Ah, là, je sèche, je vois plein de pubs de Gottener, je peux t'en citer 3-4 d'affilée, mais alors le goûter,
on va dire
je vois
un
pas.
Petit gâteau carré pour le... Oh, allez, je mets ça,
ouais,
tu
ça,
vas t'en
je
rappeler.
Je vois vraiment pas, là.
Il est 4 heures, à la bonne heure, sortez des placards les 4 heures. C'est le goûter, à quelle veine, oh oui, donne-nous des BN. 4 heures déjà, à quelle bonne heure, sortez des buffets les 4 heures. Nous avons faim, comme des baleines, oh oui, donne-nous.
RBBN.
Alors ?
Oui, oui, alors, oui, maintenant que ça me revient, mais alors c'était pas très net, il en a fait des thèmes plus marquants que celle-là.
C'est sûr.
Et puis non, elle est pas, je la trouve pas extraordinaire. C'est rigolo de l'entendre parce que ça y est, ça revient. Mais c'était, il y avait tellement de bonnes pubs à l'époque. Enfin là, c'est hashtag vieux machin, mais des pubs où il y avait des mélodies qui étaient tellement accrocheuses que celle-là, elle est partie peut-être un peu avec le, c'est vrai, hein, avec l'eau du bain du bébé, quoi.
On va rester dans la nourriture pour enfants avec un bonbon qui date de 1991.
Ah.
Pour t'aider, c'est une petite confiserie qu'il ne faut surtout pas mélanger avec une boisson pétillante américaine.
Ah d'accord.
Ou sinon, ça fait une belle petite bombe.
Ah oui, ça c'est une espèce de légende urbaine. Je pense que ça, c'est pas vraiment le cas. Je pense
d'après certaines vidéos, ça a l'air de bien marcher.
Moi, je sais pas.
Mais bon, tout le monde en a mangé de ces bonbons-là.
Oui, qu'on avait encore les dents. Ouais.
Ce qui arrive quand on a la fraîcheur, avec manteau frais et plein de vie. La vie est très relaxe, on est bien dans sa tête, avec manteau frais et plein de vie. Ça va très fort, fraîche manteau. Ça va très fort, manteau frais et plein de vie.
Manteau, le déclic fraîcheur.
Ah, c'est 91. C'est marrant, oui. Ça fait très 80, ça fait très 80s.
Ouais, non, mais après, il y a eu plusieurs versions, mais cette version-là, c'était 91.
Ah ouais, c'est rigolo.
Ah, ça rappelle beaucoup de souvenirs.
Ah ouais,
ça.
Franchement, ouais, ouais. Ouais, non, mais, et puis, ouais, ça rappelle 7 Up, toutes ces pubs-là, toutes ces pubs un petit peu où on a l'impression que c'était un peu branché, qu'on était un peu dans le branché, quoi. Si on prenait ces bonbons-là ou ces chewing-gums-là, on avait l'impression d'être un peu américain, quoi.
Exactement. Alors on va changer complètement de style, on va quitter un petit peu les publicités pour un générique créé par François de Roubaix.
Ah oui.
Grand nom de
la musique. Beaucoup. J'aime beaucoup, il a fait Chapeau.
Voilà.
Il a fait
La Schkoumoun.
Et puis c'était un grand ami de Pierre Richard. Et il est mort très jeune, d'une façon assez bête. Il faisait la plongée sous-marine. Et en fait, c'est un grand sportif. C'était vraiment un gars avant l'heure. C'était un beau mec, hein, tu vois, qui était très sportif. Et la plongée sous-marine, je crois qu'il a dû rentrer dans une espèce de grotte souterraine. Il n'a pas pu ressortir. Un truc comme ça. Un truc bête, quoi. Et il avait fait aussi le générique de Commissaire Moulin, mais celui des années 70.
Tout à fait.
Donc ça, c'était sympa.
Mais celui qu'on va écouter tout de suite, bah, c'est un grand, grand, grand classique. Tu viens de le citer. Chapi Chapeau.
Ah oui.
Chapi Chapeau, patapou, chapeau, chapi, patapi, piripipi, rabada, dada,
bada, bada.
Pacha, pacho, pitipo, pacho, pacha, pitipa, piripipi, rabada, dida.
Que de souvenirs.
Ah oui, là. Et ça me rappelle, il y avait beaucoup de choses avec des pâtes à modeler aussi, après, qu'on suivit un peu dans l'esprit.
Mais
un
miaou, là. Tu as eu le pâte à modeler où c'était
Miaou
Maou.
Ouais, c'était deux petits chats. C'était mon préféré, celui-là.
Et après, tu avais Quack où c'était de l'origami.
Mais ça, c'était casse-bonbon, parce que le bruit. C'était vraiment énervant, ce truc.
Oh, bah, les trois, c'était la même catégorie.
Oui, mais.
Que la matière qui changeait.
Mais j'aimais bien la pâte à modeler, moi. Il y avait un côté un peu rigolo parce qu'en origami, je préférais papivol, tu vois, les trucs comme ça, c'était pas beau.
Ah,
papivol, c'était de la poésie, c'était joli, quoi. Ça faisait très années 70, même si on était fin 70, début 80, papivol,
ouais,
ça faisait 80.
Des morceaux de papier posés, c'était même pas des papiers pliés, c'était des papiers posés l'un sur l'autre.
C'était génial.
Fait, image par image pour faire le mouvement.
Ah, j'adorais.
C'était excellent.
C'était une poésie. Il y avait beaucoup de poésie à l'époque dans les dessins animés qu'on regardait. Enfin, dans les programmes télé, parce qu'il n'y avait pas que des dessins animés. Loin de là, c'était des choses un peu qu'on pourrait plus voir comme mémant la parole avec des langages des sourds et muets. Et ça démarrait par du Mozart, je crois. Tu aurais pu ça à la télé. Maintenant, les gamins, ils font ça, ils te sortent le lance-flamme, quoi.
Ah bah oui. Ah non, mais ça, chapeau, oui. Miu Mao, Antivol aussi, qui était pas mal.
Ah oui.
C'était à l'époque de Dis aux enfants.
Ah ouais. Quasiment. Mais alors, chapeau, je ne sais plus, mais alors Miaou Miaou, c'était sur Écra 2, ça c'est sûr. C'est sur la 2.
Mais c'est la même époque. Mais ouais, c'était vraiment les meilleurs moments de l'enfance, c'était ces émissions-là.
Oui, parce qu'en fait, des fois, tu ne comprenais pas bien ce que tu regardais, parce que des fois, c'était un peu abstrait, un côté un peu Jean Cocteau, un peu poétique, et du coup, tu te faisais ton propre truc, quoi. Tu te disais, ah bon, il rentre dans un carré, ça ressort de l'autre côté, pourquoi, enfin, du coup, tu avais l'imaginaire qui travaillait, tu étais obligé de réfléchir sur ce que c'est qu'une ellipse, tout ça, enfin, c'était marrant.
Puis, à la même époque, tu avais, alors ça s'appelait Carouillage, où on apprenait à dessiner avec du papier quadrillé, et tu avais, bien sûr, le fameux Gribouille qui dessinait à l'envers.
Mon maître à penser, Gribouille.
Ça, c'était excellent. Ça.
Gribouille, moi, je fais des dessins à côté et ça vaut que je dois beaucoup à Gribouille. Ça me fascinait. Gribouille était toujours. Tu ne savais pas ce qu'il dessinait. Il dessinait à l'envers. Puis à l'arrivée, tu découvrais. Tu croyais qu'il partait sur je ne sais pas quoi. Et il dessinait. Je croyais que c'était une pomme. Puis à la fin, c'était une locomotive. Quoi. C'était ça, c'était drôle.
D'ailleurs, même la voix off, à chaque fois, elle pensait qu'il n'avait pas compris l'histoire et c'est seulement à la fin de l'histoire qu'en fait il avait vraiment dessiné le personnage en question.
Et ça faisait bravo Gribouille. Moi j'adorais, alors là je vais peut-être parler à certains vieux comme moi, s'il y avait les images qui bougent là, tu sais, dans les yaourts.
Oui.
Ah, les images, tu les bougeais.
Les images holographiques.
Voilà, et ça c'est extraordinaire. Parce que tu voyais des trucs de Gribouille ou de Casimir, donc j'adorais ça, moi ça me fascinait ça.
Bon, à la même époque, tu avais aussi avec le chasseur.
Ah oui, oui. Alors ça, c'était dans le village dans les nuages. C'était à l'époque du village dans les nuages. Ah, j'adorais. Il tirait sur un angle et puis la balle touchait et finissait par lui tomber dessus. Et ça, c'était rigolo. Ça, c'était le village dans les nuages. Moi, j'avais un problème avec le village dans les nuages. C'est que je lui en voulais un peu parce qu'il avait remplacé Casimir. Donc, il y avait un peu un traumatisme chez moi. J'avais déjà ce problème avec un rue Sésame. Qui s'appelle Sesame Street.
Avec Toccata.
Voilà. Parce que Toccata et Mordicus, c'est le problème de ça, c'est que à un moment donné, il y avait Casimir, mais on adorait, puis à un moment donné, ils ont commencé à mettre Casimir une semaine sur deux. Une semaine, c'était Toccata, c'était un rue Sésame, donc Sesame Street en anglais. Un vieux programme anglais en plus. Et puis une semaine, c'était Casimir. Ils ne devaient pas en avoir assez. Et moi, du coup, ça me frustrait. Du coup, j'aimais moins, ça me plaisait moins. Donc, et après, ils ont mis le village dans les nuages, qu'ils ont carrément changé. C'est une autre génération et il y avait. De trois actes de comédiens qu'on retrouvait d'ailleurs de Casimir à Village dans les nuages.
La majorité des comédiens étaient dans Village dans les nuages. J'avais Monsieur Dusnop qui faisait un des deux personnages.
Un des extraterrestres.
Une des deux personnages. Tu avais celle qui faisait le rôle de Julie qui était la voix de Ding Ding, l'ordinateur.
Ouais. C'était rigolo ça.
Les trois quarts, de toute façon, c'était Christophe Izard qui avait créé Village dans les nuages et L'île aux enfants. Donc, c'était logique que les personnages. Que les acteurs de l'un
c'était une famille
soient
un peu,
réutilisés entre guillemets dans le nouveau programme.
Ouais, c'était bien. Moi, j'aimais bien. Enfin, c'était un côté. Et ce qu'il y avait, c'était les séquences dedans qui étaient sympas. Quoi. C'est toujours aéré parce que l'histoire racontait quasi que dalle, quoi, en fait. Hein, mais toujours un truc. Je me rappelle, il y avait un truc sur les papillons, des trucs comme ça, des trucs un peu surréalistes. Puis t'avais la fameuse Alinéa. Alors ça, c'était rigolo. C'était
fameux
c'était
programme
culte.
Italien. Oui.
Voilà, et en fait, ce personnage qu'on voyait marcher sur une ligne, comme sur un tableau à la craie. Quoi.
Ah, c'est un tableau noir avec
un tableau
une
noir.
Ligne à la craie.
Et c'était un personnage qui râlait tout le temps, qui avec des onomatopées, et en est la ligne s'arrêtait, il engueulait le dessinateur qui devait redessiner la ligne, et puis à la fin, il tombait dans la ligne, c'était très drôle. Moi, j'adorais ça, je regardais ça des heures. C'est sûrement ce qui fait que je me suis mis à dessiner après. Il y avait ça, il y avait Cabu, Arécra 2 qui dessinait, tu avais Gribouille, le rapport au dessin était très, très fort à l'époque.
Avec maintenant Arécra 2 avec Marabout de Ficelle.
Ah ouais, alors Marabout de Ficelle, je me rappelle, mais c'était très technique. Moi, ça m'épatait ça parce que je trouvais que c'était limite trop technique pour des gamins parce qu'ils découpaient carrément. Il y avait une scie, tout ça. Je disais, ah la vache, ils font des trucs assez. Moi, pour gamin, j'avais pas le droit d'utiliser les outils qu'ils montraient pour Marabout de Ficelle. Ça faisait comme je disais la dernière émission, Claude Pirard dans Croque Vacances qui utilisait des circuits imprimés, enfin tu sais, des circuits électroniques pour fabriquer un truc. J'ai dit, mais où tu le trouves le truc? Jamais je vais avoir ça. Moi, j'avais pas l'argent de poche, tout. C'était un peu la science-fiction pour moi.
On va changer un peu de style. On va aller dans la chanson générique. Et cette fois, dessin animé. On parlait de Recra 2.
Bien sûr.
Un des membres de Recra 2, c'est William Lémergie.
Eh oui.
Membre très illustre. Et on lui doit une chanson. Un célèbre petit bonhomme jaune qui aime bien manger les fantômes. Dès qu'il a mangé les packs gomme.
Une révolution à l'époque des années 80, c'était extraordinaire.
Ça, c'était des très bons souvenirs, aussi bien le dessin animé
que le jeu vidéo.
Que le jeu vidéo, qui est vraiment la génération vintage, là, il y a en plein dedans. Ah là, oui, c'est vintage et culte.
Ah oui, clair. C'était les premiers addicts au jeu, c'était grâce à ce petit personnage.
Oui, parce qu'après, il est ressorti sur quasiment toutes les plateformes de jeu.
Forcément.
Quelles que soient les consoles. Et après, il a même connu une période où il était en 3D.
Ah oui.
Ah oui, oui.
Ça ne peut pas être pareil, parce que bon, le principe, c'est quand même d'avoir un... On va dire de quoi on parle, peut-être. Ouais. Ce sera plus simple.
Bah, Pac-Man, bien
Pac-Man,
sûr.
Pac-Man, bien sûr. Mais Pac-Man, ouais, mais même tout le design, tout, ça avait une classe folle, quoi. Et donc là, ouais, je pense que tu penses à des animés précis.
Oui, là, Pac-Man, tout le monde se rappelle de Pac-Man qui devait échapper aux fantômes et il n'arrivait à les manger que lorsqu'il mangeait des pac-gommes.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Ah ça, c'est des bons souvenirs, ça.
Ah oui.
Ah non, on écoute ça.
Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les gloutons. Vite une Pac-Gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! Inky, Pinky, Clyde et Mademoiselle Sourd sont des fantômes pas gentils du tout. Ils ont pour maître le méchant grippin. Mais Pac-Man s'en sort toujours très bien. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man. Il ne craint personne, pas même les méchants fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Plus fort qu'un géant, même s'il n'est pas très grand, c'est du Pac-Man. Il est courageux et il n'a pas froid aux yeux, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Il est en danger, mais il est toujours prêt. Vite une Pac-Gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! Rond comme un ballon, et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les gloutons. Vite une Pac-Gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man.
Alors.
Ah oui, là, on y est.
Hein? Alors, grande question. On vieillit ou on rajeunit en entendant tout ça?
On retourne en arrière et on s'aperçoit du chemin parcouru. Mais en même temps, c'est tellement délicieux. Je pense que, enfin, après, moi personnellement, je trouve que c'est agréable. Après, on a peut-être un pincement au cœur, des gens se disant tout ça, c'est loin. Et en même temps, on se dit, est-ce que c'était quand même pas mieux avant? On ne peut pas s'empêcher de le penser. Et ça, c'est horrible parce que. Ouais, mais quelque part, on faut aller avec son époque. Hein. On se moquait des aînés qui disaient ça. Et en même temps, bon, c'est peut-être que c'est parce qu'on y associe tellement de souvenirs personnels. On voit le 4 heures, on voit le Pac-Man, on voit le morceau de pain avec les 6 crans de chocolat qui allait dedans, des trucs comme ça. Peut-être qu'on associe ça et qu'en fait, c'est peut-être pas si génial qu'on le croit. Peut-être que... Après, je remarque que c'est très bien chanté, c'est créatif. À l'époque, on se donnait du mal à faire des génériques francisés. On refaisait une version française et c'était un peu sympa, quoi. Et il chante bien, William Lébergier.
Oui, c'est le seul qui l'a fait, mais il chante bien.
Ouais, c'est marrant, ils n'ont pas fait d'autres. Après, je me rappelle que le clip, il le faisait, enfin le clip entre guillemets, l'animation, tu sais, toujours, il chantait devant les images derrière, quoi. Je me rappelle qu'il chantait avec un canotier. Ça, je me rappelle de ça, une canne. Il la faisait un peu à la Maurice Chevalier, tu vois.
Bah, après, il était tellement occupé avec la création de Télématin, qu'il n'avait plus trop le temps de s'occuper des chansons.
Mais je crois que Crade 2, c'était aussi le patron dans Crade 2, à un moment donné. Oui, il gérait la partie un peu rédactionnelle, tu sais, il donnait un peu la direction. C'était un peu le patron à l'époque. C'était un peu. Avant qu'il parte vers d'autres
cieux. Exactement.
Il a joué aussi dans un Lelouch, William Emergy.
Ah bon, tiens,
oui,
ça, je savais pas.
Les Misérables.
Ok.
Il joue le rôle d'un mec sympa dans Les Misérables. C'est un copain, Lelouch, en fait. Je crois qu'il l'a fait jouer dans un ou deux autres films. J'ai déjà vu jouer dans un ou deux autres films. Donc c'est rigolo. Enfin voilà, c'est l'anecdote du siècle.
Ouais, mais après, c'est vrai que moi qui fais partie de ce qu'on appelle les adolescents, donc voilà, pour ceux qui ignorent, c'est la contraction de adulte et de adolescent. Donc c'est tous ceux qui ont 40, 50 ans et qui ont une certaine nostalgie et qui sont restés à l'époque de ces vrais dessins animés qui avaient vraiment du contenu. Et même dans les chansons, parce que tu disais, ben, les anciens, ils disaient aussi que c'était mieux avant, mais tu écoutes certaines chansons, par exemple de Luis Mariano dans les années 50, même encore maintenant, elles sont magnifiques. Tu écoutes Violette Impériale, elle est magnifique. Granada, elle est magnifique.
Ouais, je pense qu'actuellement, il y a des chansons aussi très bonnes, moi, qui ne sont pas ma came, mais qui sont très bonnes, mais simplement, on y est moins attiré. Mais il y a sûrement des choses faites par des artistes actuels, des femmes notamment, et je trouve que c'est les femmes qui font les trucs les plus intéressants en ce moment. Et peut-être que ça ne nous attire pas, mais ça doit être aussi bien. Après, tu sais, dans les vieux dessins animés, quand tu en as déjà revu vraiment,
oui.
Des fois, c'est pénible à regarder au niveau de la fabrication. Tu regardes les maîtres de l'univers, bon, ça me choquait déjà à l'époque, mais c'est que des superpositions, les images qu'on voit 20 fois, les Goldorak, tout ça. Il y a beaucoup d'images paresseuses où ils reprennent les mêmes choses, les mêmes positions, beaucoup, beaucoup. Et finalement, ce qui était assez génial, c'est les souvenirs qu'on y colle, puis peut-être le générique surtout. Regarde Cosmo 4, je passe le travail de Cosmo 4.
Bien sûr.
Le générique était fabuleux, le dessin animé n'était pas terrible.
La Thundercat.
C'était un peu ennuyeux, tandis que le générique, il y avait une super ambiance, tu dis waouh, ça déchire, puis une fois que tu regardais le truc, tu baillais un peu. Quoi.
C'est comme les Galaxy Rangers, ouais. Le générique, il est hyper rock.
Oui, puis une fois que tu regardes le truc, ou Jace, les conquérants de la lumière, tu vois.
Mais tu vois la différence de Albator, le dessin d'Albator, il a très mal vieilli. Par contre, tu regardes les Cosmo 4, ça passe encore. Capitaine Flamme, c'est impeccable, ça a très bien vieilli parce que le dessin. Il est déjà plus fini, je trouve, que celui d'Albator. Et puis, le scénario, déjà. Dans chaque épisode, il y a un scénario. Tu as la voix off qui explique, ben voilà, c'est tel inventeur qui a créé ça. Alors, ce qui est totalement faux. Mais il y a une telle crédibilité dans la façon d'expliquer les inventions qu'on voit dans les épisodes. Ça très 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 bien vieilli.
C'est tiré d'un roman, Captain Flamme, comme d'ailleurs les Cités d'Or. Il partait d'un roman et ça c'est fou.
Captain Future.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est ça qui est dingue, c'est que moi je me rappelle d'un épisode, j'étais gamin, j'étais traumatisé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y avait Captain Flamme qui avait été transféré dans le corps d'un autre, d'un martien en plus moche. Donc moi j'étais gauche, j'ai merde en plus,
c'était
c'est moche.
C'était un homme aquatique.
Ouais, peut-être bien. Et il allait après, il l'enfermait dans une prison au fin fond de l'océan d'une planète à la noix, paumée, donc il était. Dans un autre corps, au fin fond d'une prison avec des menottes, sous l'eau d'une planète paumée. Donc je dis, waouh, mais jamais on va le retrouver. L'épisode finissait comme ça. J'étais là, je dis, waouh. Et puis là, tu devais attendre la semaine, quoi. Tu pouvais pas trouver le truc sur YouTube, là. T'attendais la semaine. Puis il fallait pas le rater. Des fois, tu pouvais le rater parce que t'avais une vie, quoi. C'était terrible.
Alors pour la petite info, Captain Flamme, à l'origine, donc, ça s'appelle Captain Future.
Ouais.
Ça a été créé par Edmond Hamilton. Et si tu regardes le deuxième épisode de Captain Flamme, tu regardes image par image, quand il rentre dans la taverne, sur la droite, tu vas voir Dark Vador qui est assis à une table en train de boire. Alors il y a une explication, c'est que l'ex-compagne d'Edmond Hamilton a travaillé sur le script de la Guerre des Étoiles. Son projet n'a pas été accepté par l'équipe, elle est décédée peu de temps avant la sortie du film. Et pour lui rendre hommage, ils l'ont quand même crédité dans le générique.
Ah oui, c'est fou. Ça.
Et pourquoi ça s'appelle Capitaine Flamme et pas Capitaine Future ? Ben simplement parce que quand ça arrivait en France, tu avais déjà une revue érotique qui existait, qui avait été créée par Philippe Manœuvre, les Enfants du Rock. Et voilà, on a eu peur qu'en France, on confonde les deux. Donc on a dit non, il faut changer le nom.
Philippe Manœuvre qui est de Sainte-Menou, originaire.
Voilà. Et donc, on l'appelait Capitaine Flamme à cause de sa couleur de cheveux, les couleurs roux. Et le personnage qui a inspiré les traits de Capitaine Flamme, c'est Robert Redford.
Oui, ouais, maintenant tu le dis, ouais, ça peut se deviner. Ouais. Ouais, comme Belmondo a inspiré Cobra. Voilà.
Et Alain Delon aussi.
Ouais, c'est fou, hein. C'est marrant. Capitaine Flamme, moi j'adorais aussi pour générique, tout simplement, parce que c'était chanté, parce que c'est Jean-Jacques Debout quand même qui a écrit ça. Oui. C'était super, quoi. Sauf les images du générique de fin, je ne comprenais pas ce qu'on voyait.
Alors il y a plusieurs théories. L'une des théories veut que la ferme qu'on voit à la fin du générique, ça rappelle l'enfance du créateur.
Ah oui, mais tu vois, Pierre, tu vois une espèce de grand vélo, tu sais, avec ces fameux vélos du début
oui,
du siècle.
Oui, avec le chien qui disparaît, voilà, qui réapparaît.
Avec une très grande roue devant. Et tu te dis, c'est ce que c'est que ça. Et ils n'en avaient rien à taper, de ne pas être comprise. Ils faisaient leur truc, quoi. Donc, bon, créativité.
Là, on va rechanger encore de style. Une chanson créée par Joe Dassin pour son grand ami Carlos. Rien que tu vas entendre ou que vous allez entendre tout simplement la chanson, vous allez vous rappeler du, je vais pas dire le clip, mais de Joe Dassin qui était habillé en loup-garou, parce que c'est bien sûr le bougalou du loup-garou.
C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Je rentrais de gala avec mes musiciens. Quand une grosse bête apparut sous la pluie, faisant de l'autostop comme un vulgaire humain. Je lui ai dit monter, il m'a répondu: je suis le loup-garou, et toi qui donc es-tu?
Je suis chanteur comique. Je fais dans la musique.
Je chante pour les bambinos des petits refrains rigolos. Mais le loup-garou m'a dit: t'as rien compris, t'es dans le cours.
Dans le Languedoc, à Tombouctou, de l'Orénoc, n'importe où, les gens se toquent pour le bougalou. Si vous me prêtez votre instrument, je vais vous jouer un truc fumant. C'est plus qu'un tube, c'est un monument.
Les oiseaux s'arrêtent de gazouiller. Les ruisseaux s'arrêtent de gargouiller. Les martiens quittent leur soucoupe. Et les bébés mangent leur soupe. Quand le loup-garou joue le bouki-wouki-bougalou.
J'ai deviné en lui une bête de scène. Alors je l'ai pris en vedette américaine. Et je l'ai présenté à Lux au Carpentier, à Daniela Drucker, enfin au monde entier. Bientôt il fit rager ses petits camarades en grimpant comme un fou en haut des hit-parades.
Dans le Languedoc, à Tombouctou, dans l'Orénoc, n'importe où, les gens se toquent pour le loup-garou. Je suis resté simple et très sympa, ça fait plaisir à mon papa qui voulait pas que je fasse ce métier-là.
Les oiseaux s'arrêtent de gazouiller. Les ruisseaux s'arrêtent de gargouiller. Les martiens quittent leur soucoupe. Et les bébés mangent leur soupe quand le loup-garou joue le bougi-bougi-bougalou.
Oh,
moi j'adore, mais j'aime beaucoup Carlos. En vieillissant, je l'aime plus que quand j'étais gamin. En fait, moi, j'ai, par exemple, quand j'ai pas trop le moral, je mets l'amour, ça rend beau l'élé, par exemple. Oui. Je sais pas si t'as déjà essayé, mais ça te lance une journée. L'amour, ça rend beau l'élé, ça le fait. Ou alors, Juste à Rigolo, tu vois, la reprise de Just a Gigolo. Et ça, t'écoutes ça, ça te met une bonne grosse patate de l'espace. Voilà, ça, c'est vraiment sympa, quoi. Je surconseille. Puis Seigneur Météo, qu'on mettra forcément un jour.
Bien sûr.
Voilà, obligé.
Si moi, je ne mets pas ça, alors que c'est moi qui annonce la météo sur pleine radio, ça serait quand même dommage.
Ça serait dommage. Et t'as le Bonjour d'Albert, le
bien
gros
sûr.
Bébé.
Ouais, tout ça, on va les diffuser bientôt.
Ouais, tout ça se recoupe.
Et puis bon, c'est encore une fois la grande époque. Carlos, c'est la bande à Joe.
Ah,
dans Carlos, il y avait Joël du groupe Il était une fois. Mmh. Et c'était l'époque des Mighty Gilbert Carpentier.
Alors, c'était
une grande maison.
Il bossait pour Sylvie Vartan au départ, Carlos. C'était
oui.
Son secrétaire. Alors, selon les versions, on dit que secrétaire, garde du corps, il devait à tout faire, je pense.
C'était surtout son secrétaire. Et ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a commencé à chanter avec 2 minutes 35 de bonheur.
C'est ça. C'était... Moi, j'aimais bien sa chorégraphie avec Carlos, qui était vraiment souple, bizarrement, pour un type un peu costaud comme ça.
Ouais, ouais.
Et ouais, moi, j'aimais bien. Le personnage était assez haut en couleur. Et puis, à un moment donné, il a fait des choses un peu moins intéressantes à la fin. Il était moins bon ce qu'il faisait. Ça me kiffait moins, on va dire. Mais bon, moi, j'aime bien, moi, Carlos. Il me détend.
On va retourner dans la pub. Si je vous parle d'une publicité avec un accent suisse...
Faut m'en dire plus là.
Une barre en chocolat.
Ah, je commence à avoir une barre en chocolat ou une barre
énergétique.
D'accord.
Et d'ailleurs, qu'il y a eu une petite controverse puisque c'était la guerre, savoir à la fin si c'est de la dynamite ou c'est de la dynamique.
Ouais.
Ça a été la grande question et la réponse, c'est bien sûr. Eh ben, vous allez l'écouter, comme ça vous aurez la réponse en direct.
Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la marron.
Alright. Dans les vitres crie quelque chose.
Deux doigts coupe fin.
Redet, une petite fin. Et pour avoir la fin.
Redet. Deux doigts coupe fin.
Je pense que pour la réponse, on va devoir attendre légèrement.
Ah oui, bah, ça a été très 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 vite.
Ce sont les inconvénients du direct.
Ce qu'il faut,
ouais, parce que là, si tu veux, là, je suis pas doué, mais j'ai l'impression que c'était pas la pub qu'on attendait. Quoi.
Bah, la première, non, la deuxième, si, mais on va la réécouter.
Tu sais que ça me donne faim, moi je fais vraiment le régime, là, tu me sors que des barres chocolatées, là, j'ai du mal à me concentrer. Là.
Bah, bon appétit.
Oui, bah oui, mais enfin, quand même, c'est un peu cruel.
Alors attention, ça va être de la manip de haute voltige.
La space manip. Alors ça, c'est toujours pas la bonne, mais c'est du Gotener. On est d'accord, c'est du Gotener, ça.
Oui, bien sûr.
Le style. Moi, quand j'étais gamin, je raconte ma vie, mais j'adorais. J'avais pas tellement d'argent de poche, j'en avais même pas du tout d'ailleurs. Et je regardais par terre quand je marchais. On allait avec ma mère aux courses, avec mes frères et sœurs. Et je regardais par terre si je trouvais des images Malabar. Et j'en trouvais pas mal. Je faisais une collection comme ça que j'ai collé sur un cahier après. Tu sais, parce qu'il y avait des images Malabar, les petites BD à l'intérieur des.
Oui, ou alors
j'adorais.
Des tatouages.
Et Franck Margerin, pour ceux qui connaissent Franck Margerin, le créateur de Lucien, enfin les vieilles BD des années 80, a commencé sa carrière en dessinant du Malabar.
Et bah, puisqu'on est à parler des grands noms qui ont participé aux confiseries, le fameux dessin de la sucette avec une fleur sur le sommet, puisqu'on est dans une émission reportage, donc on va pouvoir en parler de Choupa Choups, la fameuse fleur qui est dessinée en haut, c'est qui à ton avis?
Alors je vais tricher, tu me l'as dit l'autre jour.
Et
donc,
c'est Salvador Dali.
Sous mon cerisier, tu me l'as dit. C'est donc Salvador Dali.
C'est ça.
Que j'adore.
Alors on va retenter. C'est vrai que ça dure à peine 8 secondes.
Oui, mais c'est 8 secondes qui sont qu'on n'arrive pas à attraper.
On va voir si ça marche.
Si ça marche pas, on gagne quoi? On a le droit de rejouer.
Bah, le droit de recommencer l'année prochaine. Il faut au moins ça.
Ouais, je pense que oui. Là.
Non, c'est bien sûr, de toute façon. Quand même parler de cette barre, c'est Ovo Maltine.
Salut, j'ai 8 ans pour vous dire que la barre Ovo Maltine.
Get on board,
que de souvenirs.
Ouais, alors c'est pas de la dynamite par contre, mais non, je préfère. Mais moi,
c'est
j'adore
parce que le jingle
ça.
En fait il dure à peine 8 secondes, donc ouais, c'est trop court et l'ordinateur le prend pas en marche. Mais bon,
c'est pas grave.
On a quand même parlé de cette publicité. Mais là, bien sûr, on a complètement changé d'univers. On est parti en Angleterre.
Ah oui, j'adore ça.
Avec The Double Decker. Here comes the Double Decker. 1972, arrivé en France.
Alors, autobus impérial pour moi, hein, parce
exactement,
que j'étais pas du tout bilingue déjà à l'époque. Bon, j'adore ça. Si tu regardes ce petit générique, en plus, si tu as les images, c'est encore mieux. Tu as ça sur YouTube et tu te régales. Quoi. Ça t'envoie de la patate. Quoi. C'était rigolo. Et je me rappelle, il y avait un bus dans lequel, derrière une palissade, il fallait soulever un bout de bois. Et ils arrivaient derrière, c'était caché. Ils avaient tout un univers. J'adorais ça. J'adorais ça. C'était un peu dans l'esprit qu'il y avait en anglais, c'était les petites canailles.
Oui, c'était excellent aussi, ça qui a été en série télé et en dessin animé.
C'est ça. La série télé était des années 50-60, on va dire. Et le dessin animé, ils l'ont fait les années 80, quoi. Et je me rappelle même du générique, c'était une seule petite canaille. Je pouvais le chanter. Ouais.
On l'aura bientôt, celle-là.
J'espère bien. J'aimais bien les petites canailles. Le générique était sympa, plus que le dessin animé, finalement.
Oui.
J'ai écouté ça avec le croque-monstre chaud en boucle.
Oui, puis t'avais aussi dans le même style Denis Lamalisse.
Ah oui. Alors Denis Lamalisse, c'est une vieille BD, ça aussi. Ça date un peu. Mais oui, c'est vrai que c'était. C'est l'époque où ce qui était marrant dans les années 80, c'est que tu pouvais prendre un truc vieux et le mélanger avec un truc jeune, ça dérangeait personne. Quoi. Il n'y avait pas de. Il se grattait pas, quoi, en fait. C'était assez marrant.
C'est vrai qu'on avait un peu tous les styles dans ces années-là. Par exemple, dans les films, on avait beaucoup de films sur les animaux. Mmh. T'avais Le Grand Voyage et t'avais aussi Benji, le petit chien. Dans les séries télé, on avait connu Lassie et Rintintin, mon ami Flicka aussi.
Après, mon ami Ben.
On a connu
mon ami Ben.
D'autres Rintintin. Il y a eu, oui, mon ami Ben.
Le Vagabond, donc Croque Vacances.
Le Vagabond qui s'appelle The Littlest Hobo dans la version originale, qui était excellent.
Donc je suis resté sur Le Vagabond, je te reviens. Et non, c'est vrai qu'il y avait plein de trucs un peu sympas comme ça, avec des animaux. Moi, je me rappelle, à l'époque, Croque Vacances, il y avait Matt et Jenny, tout ça, avec.
Tout à fait.
Tous ces trucs se mélangeaient. C'était des séries un peu canadiennes, je pense. S'il y avait un côté un peu comme ça, un peu propret. Donc, je pense
il y avait Destination Danger aussi, qui était fait au Canada.
Ah oui, mais il y en a plein. Bah, ça coûtait moins cher, en fait. Ça coûte toujours moins cher. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais découvert ça dans Supercopter. Quand ils ont fait la dernière saison de Supercopter avec des autres acteurs, un autre casting, ils avaient tourné ça au Canada. Tu sentais, ça faisait moins classe.
Il y a beaucoup d'images. C'était du recyclage, en fait, des épisodes précédents. Et oui, il y a eu plusieurs équipes. La première équipe, c'était Springfield Hawk, d'ailleurs, qui a eu deux appellations. Parce qu'une fois, il a été appelé Springfield Hawk, et après, il a été appelé String, un T à la place du P. Donc, Springfield Hawk. Après, tu avais
Michael programme,
Smith String. 3 pour Archangel. Ouais. Ernest Borgnine qui faisait Dominique Santini.
Qui tue d'ailleurs au début de la toute première la nouvelle saison, la dernière saison qu'ils ont fait. Il monte dans l'hélicoptère en loi lointain et explose. Mais on ne voit même pas l'acteur, ils mettent un mec vieux, gros, qui rentre, tu vois le truc explose, ça leur a coûté moins cher.
Et puis tu avais Jean Bruscott, qui était Kathleen dans la première série. Et après, dans la nouvelle série, tu avais Geraint Wyn-Davies, qui était au niveau des ordinateurs. Et tu avais Barry Van Dyke.
Oui, Barry Van Dyke.
Alors pour ceux qui l'ignorent, Barry Van Dyke, c'est le fils de Dick Van Dyke, qui est un immense acteur aux États-Unis.
Oui, ça suffit.
Qui fait partie. Ah non. C'est Dick Van Patten.
Dick Van Patten. Dick Van Dyke, c'est celui qui fait Mary Poppins.
C'est ça. Voilà. Il fait le rôle de.
Du Ramoneur.
Donc le peintre et, voilà, qui est amoureux de Mary Poppins. Il fait partie des acteurs les plus vieux. Il a 101 ans.
Et il est super souple. Il y a des vidéos, tu le vois en train de danser à 100 balais, le mec. C'est assez impressionnant. Oui.
Et excellent acteur de films, donc notamment dans Mary Poppins, parce qu'il fait deux rôles. Il fait le rôle de. Je crois que c'est Bert. Donc, quand il est jeune, il fait le rôle aussi du patron de la banque.
Le méchant banquier, avec une grosse barbe. Il est cheminot aussi. Non. Alors, ce qui est marrant, il joue aussi dans un Columbo. Il joue le rôle d'un gros enfoiré dans un Columbo qui est un photographe et qui a une grande barbe blanche, tu sais. Il a une femme insupportable. L'épisode est tourné pour que tu aies envie que la femme meure. C'est assez bien fait, quand même. Voilà, et c'est un film des années 70, mes Columbo préférés, les seuls regardables vraiment encore maintenant.
Après, il a aussi une série qui s'appelle Diagnostic Meurtre, où il fait un médecin qui fait équipe avec son fils, qui est inspecteur de police, et qui est joué justement par Barry Van Dyke.
Voilà. Et il n'a pas joué dans une série qui s'appelait Mannequin ou Modèle. Modèle, non, il n'y avait pas eu ça dans les années 90. Je crois qu'il a joué dans un truc comme ça, mais je ne pourrais pas me tromper, mais je crois.
Ouais, ça ne me dit rien.
une série avec Jane Seymour.
Dans Diagnostic Meurtre, il y a aussi Scott Baio qui joue, qu'on avait connu dans Happy Days. On va changer encore une fois de style, j'aime bien.
Ouais, je vois ça, si tu y arrives.
Oui. Les musiques ne font pas que 8 secondes.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, 8 secondes, c'est, on fait beaucoup de choses en 8 secondes des fois.
Oui, on se trompe de bouton par exemple.
Notamment. Ouais.
Si je te dis Patrick Timsit.
Je te dis un humoriste qui m'a bien fait rire dans les années 90 et que j'ai un peu lâché en cours de route. Quoi.
Et le titre de sa chanson, c'est de 1988, c'est Mani Manana. Alors, on parlait de culte et vintage. On n'a pas parlé forcément de très grandes chansons,
non,
mais des chansons qui ont marqué les esprits. Voilà, c'est Patrick Timsit avec Mani Manana. Je vais y arriver.
C'est bizarre de devoir l'attendre toute la journée. Oh, c'est bizarre, j'espère que ça va pas continuer. Yeah. Pour commencer, le réveil sonne, elle se lève, il faut se lever. Déjà dans la salle de bain, elle est enfermée, on va s'amuser. Avant de se maquiller, de se parfumer, elle va se baigner. Elle est pouponnée, elle est enfin prête pour aller bosser. Elle a des mani manana, mani manana. 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 Midi, j'ai tout préparé, son menu, c'est vitamisé. La bla, elle est si pressée, elle va s'étrangler, on va s'amuser. Et là, elle m'a embrassé, elle a bu son thé, jamais de café. Déjà, elle est repoudrée, elle ferme la porte et a démarré. Elle a des mani manana, mani manana. 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 Le dîner, fini la télé, il faut se coucher. Avant, dans la salle de bain, elle a enfilé son déshabillé. J'attends le petit câlin, mais pas de câlin, elle est fatiguée. Et là, c'est pas très malin, mais moi les câlins, ça me va rêver. Elle a des mani manana, mani manana. Elle a des mani manana, mani manana. Elle a des mani manana, mani manana. Elle a des mani manana.
Alors, qu'on a perdu nos 5 auditeurs là.
Je pense. Ouais.
Là, c'était, on a perdu un pari. C'est pour ça qu'on a mis ça. Je vois que ça. Non, c'est pas extraordinaire, extraordinaire quoi. C'est une pièce à conviction, on va dire à ce niveau-là. Non.
Oui, mais voilà, ça fait partie des chansons cultes. Culte ne veut pas forcément dire très très voilà. Mais ça fait partie de notre mémoire télévisuelle et mélodique, malgré tout.
Oui, 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 voilà. Enfin, voilà. Je suis content qu'elle soit finie. Voilà.
On va rester dans les chansons qu'on a vite en tête. Pour une petite info, Micheline Prel.
Prel ou Dax?
Non, Micheline Prel.
Alors attends, j'essaie de comprendre. Xavier, son fils, ouais. Daniel Gélin. Qui d'ailleurs s'est refait une santé à l'époque parce que c'était une grande vedette au cinéma dans les années 50, tout passait par lui. Et il a été un peu chassé au début des années 60 avec la nouvelle vague, il n'était pas à la mode. Et cette série télé, puisque c'est de ça dont tu parles, l'a remis sur le devant de la scène de façon populaire. Mais il ne serait jamais venu à la série télé sans un peu cette baisse de popularité. Et il est redevenu au cinéma un peu culte avec La vie est un long fleuve tranquille.
Oui.
Je ne sais pas si tu te rappelles de la scène où. Il a je ne sais pas si on peut vraiment dire ça à la radio, il a une réplique qui est assez culte, quoi.
Et dans les acteurs, il y a aussi Robert Castel.
Ah oui, Robert Castel.
Voilà,
oui.
C'était les grandes heures de tous les acteurs pieds noirs de l'époque. Donc Marc Villalonga, entre autres, Robert Castel. Bon, Marc Villalonga, on se rappelle dans Maggie.
Qui est toujours vivant d'ailleurs, Marc Villalonga, c'est oui. Ça qui est assez fascinant en fait. Parce que quand tu regardes, par exemple, La Défense a trompé énormément, On ira tous au paradis, film culte sublime, merveilleux. Tu regardes Jean Rochefort, il est mort. Guy Bedos aussi, il est mort. Mm-hmm. Victor Lanoux, il est mort. Et Pierre Brasseur, il est mort. Et celle qui joue la mère, elle est vivante.
Oui.
Mais pour l'anecdote, elle jouait la mère donc, de Guy Bedos, et je crois qu'ils avaient 2-3 ans d'écart, même pas 5 ans.
Exactement.
C'est drôle. Hein.
Et pour cette série, donc, il s'agit bien sûr des Saintes Chéries, il faut savoir que dans les premiers épisodes, tous les vêtements utilisés par Micheline Prel et Daniel Gélin, c'était leurs propres vêtements, parce qu'il n'y avait pas assez de budget pour investir dans des vêtements. Donc il a fallu attendre que la série s'installe et qu'elle commence à avoir vraiment du succès pour que les sous puissent rentrer pour pouvoir acheter des costumes.
Mais ça, j'ai entendu ça dans un Tarantino, dans Reservoir Dogs, le premier Tarantino, les mecs sont venus avec leurs propres fringues, tellement ils n'avaient pas de pognon, et c'est génial.
Il y a des fois, ils arrivaient sur le plateau, ils ne savaient même pas comment ils allaient être habillés, c'est pour ça qu'ils venaient avec leur propre garde-robe.
Ah, c'est notre époque.
Ah oui. Et on va réentendre ce générique, qui est, bah, après vous allez me maudire, parce que vous allez l'avoir dans la tête.
Ah, moi, je le trouve un peu niais, un peu cucu, honnêtement.
Voilà, donc j'en connais au moins un qui va me maudire, parce qu'il va avoir pendant toute la nuit, n'est-ce pas Loïc ?
Ouais, là c'est vrai que c'est bien gros. Moi j'ai la chance d'avoir tellement de musique comme ça, un peu à la noix dans la tête, qu'aucune ne peut prendre le pas sur l'autre. Tu vois. Donc, j'ai des trucs tellement ringardus.
Bienvenue au club. On va encore une fois changer de style, on va retourner dans les génériques de dessins animés, mais cette fois un générique très 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 peu diffusé. Dès qu'on parle de Noam Cagniel, on pense tout de suite à Goldorak.
Forcément.
Mais il en a fait d'autres. Il a fait par exemple My Thor, il a fait Wonder Woman, et bien sûr celui qui va suivre.
Les 4 Fantastiques.
Ah oui.
C'est une super BD, ça, parce que ça a été remis au cinéma il n'y a pas longtemps, avec Marvel essayer de faire un film avec ça, un petit peu sympa, mais ça sort en même temps que Superman, donc ils sont un peu fait la concurrence. Mais c'est Jack Kirby, le créateur, et c'est le maître des comics américains, c'est vraiment le dieu des comics américains, Jack Kirby. Il a créé les trois quarts des personnages Marvel qu'on connaît, le même type avec Stan Lee au scénario. Il a créé les 4 Fantastiques, Iron Man, je le dis à la française, hein, pardon, Thor, les X-Men, pas Spider-Man. Spider-Man, c'est pas lui, c'est Steve Ditko. Mais enfin, voilà, c'est dire la folie de ce dessinateur qui était un créatif. Et ça, les 4 Fantastiques, à l'époque, ça cartonnait. C'était les années 60, et c'est vraiment la BD qui a enflammé un peu les comics.
Ah, il y a eu plusieurs génériques et plusieurs scénarios différents. Parce qu'à un moment donné, dans les 4 Fantastiques, il y avait 3 humains et un robot. Mais nous, on préfère quand même avec la torche chose. Humaine, qui, pour pouvoir s'enflammer, bah, criait « torche en avant ». Après, il y avait Suzanne, la femme invisible.
Je crois qu'en anglais, c'est Flemon qui dit.
Sûrement. C'est vrai que moi, j'ai connu aussi les bandes dessinées.
Les Stranges.
Donc, c'était tout ce qui était le Marvel Comics, vous voyez, les Stranges. Titan, Speedy, Nova, Strange Origin, Strange Special Origin.
Et alors, les 4 Fantastiques, c'est dans Nova.
Nova, tu avais le personnage le plus mythique, c'était Photonic.
Alors non, excuse-moi, c'était pas dans Nova, c'était dans Speedy.
C'était Speedy,
Photonic. Et c'est Jean-Yves Mitton, le créateur. Oui, j'ai un ami qui dessine, qui a repris... non, il n'a pas repris Photonic, j'ai une bêtise, il a repris Micros.
Micros, créé, Micros c'était créé dans Micros, Titan.
Voilà, c'est ça. Mais Photonic, il a dû être dans Speedy, je crois, qui n'a pas duré longtemps. Alors peut-être qu'il y a eu des épisodes dans Nova, après tout, mais moi, je me rappelle que je les voyais dans Speedy. Après, bon, c'est l'époque où il mamaillait les séries, il les remettait un peu.
Oui, voilà. Parce que pour avoir l'explication d'une phrase dite dans le Titan numéro 16, il faut avoir le Strange numéro 75030.
Ouais.
Et voilà, et à chaque fois, il fallait. C'était une façon de fidéliser et puis de vendre tous les livres qui sortaient à chaque fois.
Ouais, puis moi, ce que je trouvais qui était génial, c'était l'impression qu'il y avait un univers infini, comme la vraie vie. Mais je disais, tu n'avais pas le début, le milieu, la fin. Il y avait plein de trucs parallèles en même temps. Il se passait un truc, ils passaient devant avec leur vaisseau. Tu voyais Spider-Man qui les regardait passer en même temps qu'ils faisaient autre chose. Tu dis, ah, c'est vrai que c'est un univers riche, il y a tellement de choses possibles. Et du coup, tu pouvais un peu te plonger là-dedans, quoi.
Et puis, tu avais des séries, tu avais l'impression que c'était des séries séparées, alors qu'en fait, elles étaient liées. Tu avais, par exemple, donc on parlait de Micros. Qui est repris en ce moment. Donc, tu avais toute la bande de Micros, tu avais Krabby, donc son grand copain qui se transforme avec une grosse pince de crabe.
Ouais.
Et tu as Saltarella, qui va avoir un enfant qui aura sa propre série dans Les Titans et les Stranges qui s'appelle Epsilon.
Et, oui.
Et avec l'enfant le du compte futur. De Gagliostro.
C'était bon, ça aussi. Et après, tu avais Tota, qui était un dessinateur, qui faisait un peu des illustrations, des trucs à côté. C'était vraiment génial, tout ça. C'était une époque où il y avait vraiment de la créativité. Parce que ce qui était extraordinaire dans ce personnage, c'est que c'était français. Il n'y avait pas de super-héros français, à part ce que faisait Jean-Yves Mitton à l'époque. Il n'y avait pas. Puis après, Cyrus Tota.
Et c'était, voilà, on avait découvert tout le monde merveilleux, on va dire, même si ça fait un peu bisounours, mais le monde merveilleux de Stan Lee et... de tous ces super-héros.
Et moi, je me rappelle que mes deux meilleurs amis, on était au lycée, dans les années 90, on n'était pas nombreux à savoir qui était Tony Stark, je peux te le dire.
Oui.
Alors, quand après, il y a eu les films de Marvel, on a l'impression qu'on nous piquait notre truc à nous, mais nous, on connaissait les Tony Stark, mais tout le monde ne le connaissait pas à l'époque, loin de là.
Bah, un des personnages les moins connus des Marvel Comics, c'est Rome, le fameux robot.
Rome, ouais, et le cyborg.
Voilà.
Ouais, c'était super, Rome. Sal Buscema au dessin.
Très grand nom aussi.
Al Milgrom. Ah non, c'était super. C'était assez avec les spectres. Je crois que c'était en face, si je me souviens bien. C'est un super personnage, mais qui a disparu, qui a été oublié après.
Et on va écouter les 4 Fantastiques chantés par Noam.
La torche humaine t'ingrate à peur, faible derrière. Dans son sang protecteur, on ne craint rien. Pèlerine, l'homme de pierre, au cœur d'argile, l'un des trois mousquetaires de
Je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coince près de la scierie et très méchamment lui dit:
si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux.
Puis il l'empoigna.
Alors?
Il la ficela.
Alors?
Il la mit sous la scie.
Alors?
Et alors?
Arrivé sans se presser, le grand Zorro,
le beau Zorro,
avec son cheval et son grand chapeau.
Mais bientôt j'ai pris la deuxième chaîne, car un vieux schnock parlait. Charmante soirée, sur la deuxième chaîne il passait le même navet. Près d'une cabane, Joe le Bouffi coinçait la pauvre Suzy. Il lui disait:
donne-moi ton manche et poupée ou je te transforme en purée.
Puis il l'empoigna. Mais il la ficela. Il mit le feu à la dynamite.
Et Zorro est
arrivé.
Mais moi, j'en avais tellement marre, j'ai repris la première chaîne. Et devant mes yeux hagards, se déroulait la même scène. Et Jojo, Jojo le Bouffi, dans un sac fourrait Suzy disant:
donne-moi ton rancher boudin ou je vais te balancer sous le train.
Puis il l'empoigna et il la ficela. Sur les rails, il la fit rouler. Mais le train arrivait, les copains.
Et Zorro est arrivé.
Sans se presser, le grand Zorro,
le beau Zorro,
avec son cheval et son grand chapeau, avec son flingue et son grand lasso, avec ses bottes et son vieux banjo.
Sacré Zorro. Grand souvenir. Hein.
Ouais, mais tu sais qu'il y a une histoire avec ça, c'est qu'en fait, il n'avait pas demandé la permission pour chanter ça, Henri Salvador.
Exactement.
Et Disney lui est tombé sur le poil à cause de ça. Et sa femme, Henri Salvador, sa première femme en tout cas, qui est restée longtemps, elle a été assez avisée en affaires. Elle a réussi à faire comprendre à Disney que plutôt que de faire un procès pour gagner 3 francs 6 sous, ils avaient qu'à plutôt utiliser Henri Salvador pour devenir un peu l'ambassadeur de Disney. Et c'est un des premiers, voire le premier, qui en France a chanté du Disney, a été, comme après a fait Douchka, Chantal Goya, tout ça. Quoi. C'est rigolo.
Exactement.
C'est rigolo.
On va aller faire un petit tour du côté des dédicaces, parce qu'il y a quand même quelques messages.
Est-ce que mon public m'a suivi?
Ah ben, on va voir ça, tu me diras. Alors, le pseudo, celle qui va être virée. Le message, c'est: non, sinon je suis viré. Bonsoir les vintage, trop hâte d'entendre les pépites de la jeunesse. Une bonne fête à mon Jean-François, merci. Et oui, c'est aujourd'hui, bisous, bonne soirée.
C'est gentil, bonne fête.
Merci. Daniel, un bon moment tant attendu, un peu d'innocence va nous faire du bien. Hervé, bonne idée d'émission. Merci beaucoup.
Merci Daniel, merci Hervé.
Paul, les dragées Fuca, vous vous en souvenez? Oh bah bien sûr, qui ne s'en souvient pas avec clair. Coluche.
Non, mais c'est aussi pour peut-être la préparation H, peut-être aussi. Pensez peut-être à la pub des préparations H avec le tabouret.
Avec le tabouret. Huile, j'adore réécouter les pubs de mon enfance. Rémi, petit bisou aux animateurs. Vous n'avez pas chaud? C'est un petit peu, mais pour l'instant, on ne fond pas encore, donc ça va.
La fraîcheur de votre amitié nous aide à tenir.
Et là, un message pour toi. Bonsoir à l'animateur nouveau. Il a l'air sympa aussi.
Ah, merci. C'est qui? C'est un garçon? C'est une fille, ça?
Rémi.
C'est un. Bah, merci, c'est un Rémi. Garçon. Rémi, si, Rémi. Rémi, il n'a pas de famille.
Ah, ça, je sais.
Ou il en a 100.
Bruno. Quand j'étais petit, j'adorais le chocolat Meunier. Vous avez la pub? Nous allons y travailler pour les prochaines émissions. Promis.
On va mettre nos équipes là-dessus.
Bruno. Non, je viens de le dire. Thomas, pardon. Cool comme émission, c'est top.
Merci.
Annick. Le concept est bien fait. Merci beaucoup.
Ouais, et puis c'est bien animé, je trouve aussi.
Victoire. Merci pour cette bonne radio que j'écoute toujours. Comme beaucoup, et merci pour le quintet du jour, c'est un de mes rendez-vous.
Hier. Yeah.
Voilà pour ces premiers messages.
C'est gentil tout ça.
On va écouter une petite chanson, le temps de réactiver les derniers arrivés. Alors cette chanson-là va nous ramener à l'époque de Stéphane Collaro avec Pitéric.
Ah.
La fameuse... Cigale et la fourmi, qui a changé en 1981 pour s'appeler La Cicrane et la Frouille.
Yeah.
Tu te rappelles de ça?
Ah, très très bien, très très bien.
Ah, ça va nous faire encore des cheveux blancs, ça?
Ouais, bon, on en a déjà beaucoup.
On verra pas.
Ouais, ça se verra plus.
Bon, ben ça va alors.
C'est un drame.
Changer les miams de l'esprit contre les miams du frigérateur.
Allez, ne faire foutre, ne saltimbranque.
Oh, mais c'est nétique.
La fourmi veut pas donner son miam, miam. La fourmi veut pas donner son miam, miam.
Moi, j'en ai ras les antennes. Je vais déglinguer la fontaine. Ce macho qui n'aime pas les cicranes.
toute la journée. Oh c'est bizarre, j'espère que ça va pas continuer. Pour commencer le réveil sonne, elle se lève, il faut se lever. Déjà dans la salle de bain, elle est enfermée, on va s'amuser. Avant de se maquiller, de se parfumer, elle va se baigner. Et là, elle est pouponnée, elle est enfin prête pour aller bosser. Elle a des mani manana, mani manana. Elle a des mani manana.
Ah voilà, c'était encore Patrick Timsit. Ça, ça change, j'aimais bien.
Bah, c'est tiens, la double punition en fait.
Oui, ouais, double punition. L'ordinateur l'a dit, tiens, puisque ça a bien plu, on va le remettre.
D'accord, bon, ok. Bon, on va se faire une raison. Mais bon.
On va retourner un peu dans les dédicaces, parce qu'il y a quelques messages quand même.
C'est rigolo, ça j'aime bien moi, les petites dédicaces comme ça.
Alors, il y a vraiment quelques-uns. Annick, on l'a eu tout à l'heure, Victoire. Victoire, c'est fait. Donc, Bernard, maintenant. Bonne fête, Monsieur JF. Eh bien, merci beaucoup. Aurélie, je vous souhaite une bonne fête, Monsieur JF. Vous êtes un bon animateur. Que c'est gentil. Oh, ben j'ai bien fait de venir aujourd'hui.
Ouais, moi, je me sens un peu seul, là, c'est ce coup-là.
Non, bah,
c'est ni ma fête et on ne me dit pas que je suis un bon animateur.
Bah, voilà, exactement.
Je suis un peu dégoûté, mais bon.
C'est pas ta fête, donc tu n'as pas de gros compliments.
Mon génie sera reconnu à ma mort.
Oui, bah, comme tout le monde.
Je pense, j'aurai du talent à ce moment-là.
Ensuite, alors attention, Loïc, le beau gosse qui déchire. Merci encore pour ce harcèlement musical. Je l'ai en tête. Maintenant, tu seras viré. Ensuite, nous avons Aline, qui revient par rapport au jeu dont nous avons parlé tout à l'heure, Pac-Man.
Non, c'est vrai, elle revient parce que tu as créé son nom pour qu'elle revienne, Aline.
Voilà.
Et bien sûr.
Seul sur le sable, oui, les yeux dans l'eau. Non, ça c'est un autre prénom.
Ça, j'ai toujours eu du mal avec ça, j'imagine, les yeux dans l'eau. C'est...
Donc Aline qui nous dit, ah oui, Pac-Man, un jeu que j'adorais.
Ah oui.
On a passé des heures et des heures là-dessus. Ah, oui, il existait même en petite console
oui.
Jaune.
Ouais,
rappelle de ça, ouais. Ça
et ils ressortent
comme les bornes arcade.
Ils ressortent dans les supermarchés pas chers, ils en sortent.
Oui. Ouais. Nous avons Olivier qui nous dit encore un excellent programme sur cette bonne radio.
Merci Olivier, un connaisseur.
Inès, Pac-Man, c'est mon enfance, le coup de vieux qu'on prend. Eh ben désolé, mais c'est pour la bonne cause.
Ah oui, ça, ouais, c'est l'effet EHPAD.
D'autres petits voyages encore avec Claude Lombard qui est une chanteuse de générique connue pour avoir chanté les trois quarts des génériques de dessins animés comme celui-là, le roi Léo.
Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh. Car on peut vivre au milieu de la jungle sans jamais se chamailler. Qu'on soit mousse ou gros comme une épingle, on a le droit d'être. Le soleil des savanes. Appelez Léo.
Claude Lombard, donc, qui était la grande chanteuse des génériques de Feu la 5. Donc, oui. Le retour de Léo, ça c'est la nouvelle version, parce qu'il y avait une version qui était un petit peu plus ancienne.
Oui, nettement plus même.
Parce que Léo était vraiment un des premiers dessins animés venant du Japon. Oui. Pas forcément le premier, mais un des premiers, bien avant Goldorak. Goldorak, ça a été le premier manga, mais il y avait quand même le Roi Léo. Roi Léo qui a inspiré le Roi Lion de Walt Disney. Et on va lire quand même les deux derniers messages. Pierre qui nous dit « Merci pour l'anecdote de Capitaine Flamme. Je ne connaissais pas, je l'apprends 30 ans après. »
Mieux vaut tard que jamais.
Et Léon qui nous parle de la publicité de Ovomaltine. J'ai 8 secondes pour vous dire que là-bas, Ovomaltine, c'est de la dynamique. Et donc dynamique et pas dynamite. Ovomaltine, c'était fort en goût. On avait ça dans les années 60. Qui coûtait moins cher que le chocolat, je détestais, avec un petit rire.
C'est une pub de Thierry Ardisson, bien sûr.
Exactement.
Et tu sais qu'aujourd'hui, je vois ça sur mon Facebook, c'est l'anniversaire d'Alain Gilot-Pétré.
Oui, ah, j'adorais, moi, quand il présentait la météo, il avait toujours des petites anecdotes.
Ah oui, il est mort en 99, à 49 ans.
Donc, et il avait beaucoup de sens de l'humour, puisqu'il il a participé à bon nombre de Pas de pitié pour les 300 avec Dorothée.
Ouais,
il se prêtait facilement au jeu et voilà, il avait beaucoup d'autodérision, comme une bonne partie des vedettes de cette époque-là d'ailleurs, puisque tu avais Fabien Egal qui a participé aussi à ça, donc on la connaissait pour Tourner Manège. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont participé à Pas de pitié pour les croissants, Dick Rivers, entre autres. Voilà, il y a eu des grands noms de la chanson quand même.
Ouais, Dick Rivers, c'est un grand nom de la chanson donc.
Moi, c'est un de mes chanteurs préférés avec Eddie Mitchell.
Pardon, respect. Voilà.
On va terminer, bah oui, quand même. Faut bien finir à un moment donné. Ah bah, il n'y a pas assez de temps dans une journée pour faire ce qu'on a à faire.
Je le fais bien, le gars déçu, non? On comprend.
Oui.
J'aurais pu être bruiteur, mais personne ne veut m'embaucher, je ne sais pas pourquoi. Sinon, je peux faire aussi les sabots quand ça marche.
T'as fait l'acteur studio avec les cours Florent.
Ouais, c'est ça, avec mon copain Florent.
Eh bien, on va finir avec notre générique. Puisque bah, il est quand même, lui, 20h47.
Seulement 20h47.
Bon, on verra le mardi prochain pour le numéro 3 de Génération Vintage, si on peut faire un peu le même principe.
Ouais,
on verra si on peut déborder un petit peu.
Bon, on verra.
En tout cas, merci pour tous vos messages bien sympathiques. Merci pour m'avoir cité ma fête. Je suis très touché. Merci Jérôme pour d'avoir animé avec moi.
Écoute, quand on a un peu de talent, c'est normal qu'on le mette à la portée des autres, c'est logique.
Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de venir directement dans les studios pour partager avec nous vos souvenirs, ça sera avec un grand plaisir. On se quitte donc sur notre petit générique et on vous dit à bientôt. Rendez-vous mardi prochain. Pom 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 pom.
Thank you.